VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du vendredi 19 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, adoption de la loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante.
La présidente de MSF demande aux équipes sanitaires chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola en RDC d'élargir la campagne de vaccination.
Au Soudan, rassemblement de milliers de personnes hier à Khartoum pour rendre hommage aux manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a continué à attaquer 4 parlementaires démocrates non blanches, dernière cible de ses tuiles.
En sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le Parlement a adopté la loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante chargée de la présidentielle de 2020. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Devant la commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement, 24 députés ont voté pour et 16 contre sur les 42 membres. Ce projet de loi adopté en commission doit être confirmé en plénière. Le Parlement compte 255 députés, dont 166 sont issus du parti au pouvoir, le RHDP du président Alassane Ouattara. L'opposition a rejeté le texte. La nouvelle CEI doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques, équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition, et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Sidiki Diakité, s'est félicité du meilleur équilibre de la commission. En 2016, la Cour africaine des droits de l'homme avait recommandé au gouvernement ivoirien de réformer la commission électorale. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020, 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts.
Au Mali, l'armée a annoncé hier qu'un de ses soldats a été tué et 2 autres blessés dans une embuscade contre leur convoi mercredi dans le nord-est, non loin de la frontière avec le Niger. Selon les FAMA, l'évaluation des opérations de poursuite des assaillants fait état d'un bilan de 5 terroristes tués. 7 civils, dont 5 passagers d'un véhicule, ont été tués le 11 juillet à quelques dizaines de kilomètres de Menaka, également dans le nord-est du Mali, par des assaillants armés, selon un élu local et des sources de sécurité maliennes.
Les équipes sanitaires chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo doivent élargir la campagne de vaccination, a déclaré hier la présidente de Médecins sans frontières. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La Canadienne Joanne Liu a estimé que les responsables de la santé devaient ouvrir les yeux sur la stratégie à suivre pour stopper cette épidémie qui a déjà fait près de 1700 morts en un an. Elle a appelé à l'élargissement de la vaccination. Nous avons adopté entre 2014 et 2015 dans les essais cliniques l'approche vaccinale en ceinture, a-t-elle rappelé, ce qui veut dire que si une personne est infectée, on doit vacciner ses contacts et les contacts de ses contacts. Mais en RDC, le suivi de ses contacts a fait défaut depuis le début, déplore Mme Liu, qui pointe du doigt l'urgence de la mise en œuvre d'une stratégie inclusive. Son approche dite géographique exige par exemple que si une personne infectée vient d'un village, il faudra vacciner tout le village. Ebola est maintenant une priorité mondiale pour l'OMS. À Goma, dans l'est de la RDC, les 2 postes frontières avec le Rwanda sont restés ouverts. Les mesures de prévention comme le lavage des mains à l'eau chlorée et la prise de températures sont restées les mêmes depuis le début de l'épidémie, le 1er août dernier.
Au Soudan, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Khartoum pour rendre hommage aux dizaines de manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation déclenché il y a 7 mois. Mouvement qui a poussé au départ du président Omar el-Béchir. Ces rassemblements ont eu lieu au lendemain de la signature d'un accord sur le partage du pouvoir entre le conseil militaire qui a succédé à M. Béchir et les chefs de la contestation, premier pas vers un gouvernement civil, la principale revendication des manifestants. Les pourparlers doivent reprendre ce vendredi pour finaliser des points sur lesquels les deux camps restent en désaccord.
En Afrique du Sud, l'armée a été déployée hier dans plusieurs quartiers sensibles du Cap, la deuxième ville du pays, pour aider la police à rétablir l'ordre après une vague de meurtres et de violences attribuées à des gangs de criminels. Le point avec Abdourahman Dia.
Plusieurs véhicules blindés ont fait hier leur entrée dans le township de Menenberg, dans l'est de la mégapole. Des soldats casqués et équipés de fusils d'assaut ont commencé à patrouiller à pied. Le chef d'état-major des forces armées, le général Solichok, avait annoncé l'entrée en scène pour 3 mois de l'équivalent d'un bataillon dans les townships des Cape Flats. Lors de la publication des statistiques annuelles de la criminalité, le ministre de la police, Becky Kelly, avait comparé certains quartiers à des zones de guerre. Les soldats sont déployés pour aider la police à rétablir l'ordre et à maintenir la paix dans des communautés qui sont terrorisées par les gangs, a déclaré hier le président Cyril Ramaphosa devant le Parlement. Nous devons sauver des vies, a ajouté le chef de l'État. Avec 57 meurtres par jour, soit plus de 20 000 par an, l'Afrique du Sud figure aux premières places du palmarès des pays les plus violents de la planète.
Le vice-président américain Mike Pence a appelé hier les gouvernements d'Érythrée, de Mauritanie, du Pakistan et d'Arabie Saoudite à respecter le droit de conscience de personnes détenues pour s'être exprimées sur leur religion. Il a demandé leur libération lors d'une conférence sur la liberté religieuse à Washington. M. Pence a soulevé les cas de l'ancien patriarche de l'Église orthodoxe, Antonios, en Érythrée, du blogueur Mohamed Cher Oud Mheitir en Mauritanie et d'un autre blogueur, Raphaël Badawi, Raif Badawi en Arabie Saoudite, et ce, dans une rare prise de distance de l'administration Trump à l'égard de cet allié stratégique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont abattu hier un drone iranien qui s'était approché d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz. C'est le dernier incident en date dans une région sous haute tension depuis plus de 2 mois. Le point avec Jean-Roger Bion.
C'est le président américain Donald Trump lui-même qui a annoncé que les États-Unis avaient abattu cet appareil iranien qui s'était approché dangereusement d'un navire américain après avoir ignoré de multiples appels à s'éloigner. La région du Golfe et du détroit d'Ormuz, par où transite le tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète, se retrouve au cœur de vives tensions géopolitiques sur fond de bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Après être sorti de l'accord international sur le nucléaire, conclu en 2015, Washington a rétabli des sanctions qui ont fait plonger l'Iran en récession et lui font perdre les acheteurs de son pétrole. Depuis mai, l'Iran a commencé à s'affranchir de certains de ses engagements pour, dit-il, forcer ses partenaires à prendre des mesures garantissant ses intérêts et permettant de préserver l'accord. Berlin et Paris ont appelé séparément Téhéran à respecter pleinement ses engagements. Selon le Guardian, le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif, qui se trouvait jeudi à New York pour des réunions à l'ONU, a proposé des inspections immédiates et plus complètes du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions par Washington. M. Trump a suggéré pour sa part que la pression américaine sur l'Iran pourrait conduire à l'ouverture de négociations. Tout ce que nous voulons, c'est un accord juste.
Le président Trump a continué pour la 5e journée consécutive hier de s'interroger sur la loyauté à l'Amérique de 4 élus non blanches du Congrès qu'il a accusé de faire des déclarations marquées par, je cite, « une telle haine de notre pays ». Hier à la Maison-Blanche, un confrère lui a demandé pourquoi il n'avait pas arrêté les « renvoyez là » que scandait la foule, la veille en Caroline du Nord, pendant qu'il critiquait la députée Ilhan Omar, une ancienne réfugiée somalienne. M. Trump a dit qu'il n'avait pas aimé ça, assurant avoir essayé d'interrompre ses chants en reprenant rapidement la parole. Ce qu'on démentit des chaînes de télévision en rejouant des extraits de vidéos de la scène. Pour sa part, Ilhan Omar a dit croire que M. Trump est un fasciste.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la Coupe d'Afrique des Nations avec Yacouba Ouédraogo.
Bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. C'est le grand jour, la finale de cette première CAN à 24 équipes a lieu ce soir à 19h temps universel au stade international du Caire. L'Algérie attend un deuxième sacre continental depuis près de 30 ans. Le Sénégal, lui, n'a pas encore une seule étoile à son palmarès dans la CAN et jouera sa deuxième finale de CAN 17 ans après. Les Lions de la Teranga n'ont essuyé qu'une seule défaite dans cette CAN et c'était face au même Fennec, vainqueur 1-0 en phase de poule. Pas de quoi faire peur au coach sénégalais et ses poulains, Aliou Cissé.
C'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre autocritique. Nous sommes en finale déterminés à la gagner, tout simplement.
Cette finale a aussi un goût particulier pour les deux sélectionneurs, Jamal Belmadi de l'Algérie et Aliou Cissé du Sénégal, tous nés en 1976 à un jour d'écart, Belmadi à Champigny et Cissé au Sénégal, avant de rallier la banlieue parisienne à l'âge de 9 ans. Plus tard, Belmadi est parti se former au Paris Saint-Germain, Cissé à Lille. Cette opposition continue, cette fois-ci en terre africaine et en tant que coach. Jamal Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.
C'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. On a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. C'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver, nous deux, à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier.
Cette finale Algérie-Sénégal, c'est bien évidemment l'objet du coup de sifflet de Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon.
De tout temps, les finales n'ont jamais été des matchs comme les autres. Même lorsque les équipes qui la disputent se sont déjà affrontées en début de compétition, comme c'est le cas pour ce Sénégal-Algérie, dont la première manche en phase de poule a vu les Fenecs dominer aisément les Lions du Sénégal. Au contraire, dans de telles circonstances, le vainqueur du match précédent resserre ses boulons et le sort de la finale obéit à un scénario nouveau. L'histoire de la CAN est riche de situations diverses. Le Congo-Kinshasa, battu par le Ghana en phase de poule, prit sa revanche en finale à Addis Abeba en 1938. Par contre, l'Algérie puis l'Égypte, facile vainqueur respectivement du Nigeria en 90 et du Cameroun en 2008, confirmèrent leur victoire en finale, mais à l'arraché. Le plus grand renversement de situation de tous les temps est à mettre au profit de l'Allemagne face à la redoutable équipe de Hongrie de Ferenc Puskás. Laminée en poule par le score sans appel de 7-3, elle gagna la Coupe du Monde 1954 devant le même adversaire avec la complicité de la météo. Score final 3-2, le hold-up du siècle. Alors, au niveau des forces en présence, que nous réserve cette finale? Certains dans le camp sénégalais s'inquiètent de l'absence du défenseur central Koulibaly suspendu. Il se rappelle qu'au contraire, cela peut motiver son remplaçant en quête de reconnaissance. Cette absence peut aussi amener le coach Aliou Cissé à adopter un dispositif de contre avec marquage haut plus efficace lorsqu'on rencontre une équipe créative comme celle d'Algérie. L'impact physique pendant les duels pouvant dérégler la machine offensive algérienne et la faire retomber dans ses travers traditionnels, en particulier la nervosité. En attendant, trêve de précipitation et place à la réalité du terrain. À bientôt.
Le football congolais va mal. Trois joueurs de l'AS Vita Club ont traversé le fleuve Congo, par pirogue à l'insu de leur club pour rallier Brazzaville puis le Maroc. Et à Kinshasa, suite à l'élimination des Léopards en huitième de finale de la CAN, des voix s'élèvent pour exiger la démission du président de la Fédération de foot, Constant Omari. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il s'agit du capitaine Nelson Munganga, du défenseur Padou Bompunga et de l'attaquant Francis Kazadi. Ils ont, selon leur club, traversé nuitamment Brazzaville par pirogue pour rejoindre le Maroc par avion et y passer des essais dans certains clubs de première division. Cette situation intervient au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a vu les Léopards être éliminés dès les huitièmes de finale. Une élimination qui suscite encore de nombreuses réactions à Kinshasa, où des voix s'élèvent pour exiger les démissions du sélectionneur principal Florent Ibengué et du président de la Fédération congolaise de football association Constant Omari. Promu premier vice-président de la Confédération africaine de football ce jeudi au Caire, Constant Omari fait face à une pression d'une partie de l'opinion à Kinshasa. Une association a d'ailleurs annoncé une marche ce mercredi 24 juillet pour exiger sa démission. Une plainte a aussi été déposée contre le président de la FECOFA par l'ancien candidat président de la République, Seth Kikuni, pour imputation dommageable et non-respect d'un contrat de sponsoring signé le 22 mai dernier. Le camp Omari lui reste serein. L'un de ses vice-présidents, joint à ce sujet, affirme que Constant Omari ne démissionnera pas. mais il promet pour bientôt une évaluation objective et détaillée de la participation de Léopard à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Organisation mondiale de la santé vient d'élever la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Sur le terrain, la mobilisation contre Ebola se poursuit. Le ministre de la Santé a détaillé son exigence de transparence envers les ONG et partenaires impliqués dans la riposte anti-Ebola, notamment l'UNICEF, MSF et Oxfam. Eric Manirakiza a joint en RDC le directeur adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences, le docteur Sossé Ibrahima Fall.
La déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale est basée sur l'évaluation du risque et la possibilité de propagation de l'épidémie en dehors de la République démocratique du Congo. Donc, cette déclaration s'accompagne des recommandations en termes d'action à mener au niveau du Congo, mais aussi au niveau des pays voisins, en termes de prévention, de capacité de gestion, mais aussi de partage d'informations, y compris l'information sur le risque. Les actions du terrain continuent, les priorités n'ont pas changé. C'est toujours donc d'interrompre la transmission par une investigation, une détection précoce, une capacité à isoler, à traiter les cas, à prévenir la transmission de l'infection aussi bien dans la communauté que dans les formations sanitaires.
Vous avez personnellement la charge de lutter contre Ebola. Quels sont les défis sur votre chemin?
Le défi numéro un a été le défi sécuritaire. Nous sommes dans une zone qui est le lieu d'un conflit qui a duré plusieurs dizaines d'années, où il y a plusieurs groupes armés, où l'accès à certaines localités est parfois très difficile du fait de la sécurité. Nous sommes aussi dans une zone très vaste où les populations se déplacent. Donc, très souvent, il y a beaucoup d'activités économiques. Et l'autre défi aussi, c'est un système de santé qui n'est pas fort. Il y a beaucoup de faiblesses donc, qui font que la transmission se passe même dans les formations sanitaires. Donc, nous allons continuer à mettre l'accent sur le renforcement des capacités aussi bien pour la communauté que pour les travailleurs de santé pour pouvoir prévenir les transmissions secondaires, détecter rapidement les cas et pouvoir les isoler, les traiter. Continuer la stratégie de vaccination aussi autour des pour rompre la transmission.
Plus de 1700 morts l'été dernier, c'est quand même trop.
Même un mort, c'est trop. Donc, notre approche, c'est de pouvoir sauver le maximum de vies possibles. Vous parlez de 1600 morts, mais aujourd'hui, il y a plus de morts même pour la rougeole, une maladie qu'on peut prévenir totalement ici au Congo et dans d'autres pays, plus de morts pour le choléra. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans la fatalité. Nous faisons tout pour prévenir ces décès. Même un décès est un décès de plus.
Le docteur Sossé Ibrahim Fall, directeur adjoint de l'OMS, en charge de la réponse aux urgences.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Nigeria, la mobilisation se poursuit pour mettre fin à la tuberculose. Au centre des préoccupations d'experts réunis cette semaine à Abuja, les moyens financiers. Le pays a en effet besoin d'environ 336 millions de dollars pour relever les défis de la tuberculose d'ici 2020. Reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le Nigeria fait partie des 14 pays les plus affectés par la tuberculose. Dr Uroke Uchoke du programme national de contrôle de la tuberculose au ministère fédéral de la santé.
La tuberculose est un problème majeur de santé au Nigeria. Nous occupons le premier rang en Afrique et le sixième rang au niveau mondial parmi les pays les plus touchés. Et nous sommes aussi parmi les 30 pays ayant le plus grand fardeau de la tuberculose au monde.
La lutte contre la maladie a été freinée ces dernières années par ce qu'on appelle la tuberculose pharmacorésistante et par l'épidémie du VIH-Sida. On estime que 418 000 personnes au Nigeria avaient la tuberculose en 2018. Lagos et Kano, les états les plus peuplés du pays, sont les zones les plus affectées par la maladie. Les facteurs de la propagation de la maladie sont multiples. Dr Steven John est le CEO et fondateur de Jana Health Foundation.
Il y a de nombreux facteurs, mais les plus importants sont tout d'abord l'accès aux services. Les infrastructures ne répondent pas aux besoins en jeu. Les gens doivent encore parcourir de longues distances et surtout ceux des communautés et des zones rurales. Il y a aussi d'autres groupes de personnes dans les zones considérées comme étant des zones difficiles à atteindre. Nous avons des populations nomades et nous avons en outre des communautés d'accueil des personnes déplacées.
Les contraintes de financement sont restées le principal défi pour lutter contre la maladie. Toutes les parties prenantes présentes pour discuter de la manière de mettre fin à la tuberculose au Nigeria attendent beaucoup de cette rencontre. Dr Lucie Ebele est pédiatre et consultante de l'université de Port Harcourt dans le site pétrolifère du pays.
Après cette conférence, j'espère que les recommandations seront soumises aux acteurs politiques et à nos leaders et que ces recommandations soient mises en application, parce que ça ne suffit pas de nous réunir ici à Abuja pour parler de la tuberculose sans prendre des décisions concrètes pour exécuter les recommandations.
Créé en 2007, le partenariat Halte à la tuberculose Nigeria pour sensibiliser le public à la tuberculose, intensifier le plaidoyer et aider à mobiliser des ressources supplémentaires, manque de moyens pour faire face à la crise. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Tunisie, le nombre de migrants arrivés de Libye par la frontière terrestre a plus que doublé au premier semestre 2019 selon les chiffres de l'ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Sur un total de 1008 candidats, 90% sont originaires d'Afrique subsaharienne. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint la chef de mission Tunisie de l'OIM, Lorena Lando.
Nous, on a plus ou moins les mêmes chiffres. C'est vrai que ces années dernières, il y a eu à peu près 700 qui sont arrivés au cours de toute l'année. Cette année, on est arrivé à 840 jusqu'à là. Donc, c'est plus, mais on n'est pas dans des chiffres alarmants dans le sens des milliers de personnes qui sont en train de passer.
Alors, quelles sont les conséquences concrètement sur une organisation comme la vôtre pour l'OIM?
Bien sûr que nous, on aide d'appui, disons, à la Tunisie, en travaillant aussi en unité avec des réponses qui sont aussi humanitaires par la société civile tunisienne. Donc, la souveraineté de l'État reste, mais est-ce qu'ils ont les moyens et les structures pour gérer une arrivée supplémentaire des migrants. Aujourd'hui, on peut arriver à gérer, donc pour fournir l'assistance humanitaire nécessaire. Il y en a plusieurs parmi ces gens qui fuient la Libye, qui, s'ils ne sont pas des demandeurs d'asile, ils sont assistés, bien sûr, aussi pour ceux qui désirent de pouvoir rentrer au pays d'origine avec un retour, une réintégration, une fois au pays d'origine. Il faut aussi penser qu'il y a aussi un autre défi, c'est plutôt les sauvetages en mer. Avec une situation en Libye qui devient plus critique, on est à la chiffre de 483 personnes, donc à peu près la moitié par rapport aux cas qui passent la frontière terrestre.
La situation des migrants en Libye est très difficile. Avez-vous constaté une amélioration cette année?
Ce qu'on a vu, c'est vrai que cette année, il y avait plus de cas de personnes qui viennent des pays qui ont un conflit donc au pays d'origine. Donc on a Érythréens, Soudanais, Somaliens. Donc c'est vraiment des personnes qui ont aussi une difficulté de trouver une solution et dire je peux rentrer au pays. L'assistance humanitaire est là en coordination, mais c'est pas évident parce que l'hébergement reste un des défis le plus important de l'hébergement d'urgence humanitaire pour ces gens-là. La Tunisie n'a pas de centre, voilà. Les gens sont libres, donc ce sont des centres gérés par le Croissant Rouge ou par l'ONIEM, mais voilà, il n'y a pas des facilities qui sont gérées par les autorités tunisiennes. On a demandé au système des Nations Unies, donc ACR et ONIEM, de mettre à jour le plan de contingence au cas d'influx massif, mais on n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais la préparation au cas de mouvements importants des personnes de la Libye, c'est important de le réfléchir et quels sont les moyens disponibles et qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins des personnes qui fuient la Libye.
Lorena Lando, chef de mission Tunisie de l'Organisation internationale pour les migrations.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ce 20 juillet, Le Monde commémore les 50 ans de la mission Apollo 11 sur la Lune. En Afrique, l'événement est aussi sur toutes les lèvres. Au Burkina Faso, un demi-siècle après, c'est comme si c'était hier, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Il y a 50 ans, l'homme marchait sur la Lune. L'événement a bouleversé certaines croyances, se rappelle la docteur Pierre Claverienne, aujourd'hui historien, enseignant à l'université de Ouagadougou.
Il n'avait pas 5 ans. À l'école, nous avons eu cette révélation. Par la suite, nous aussi, on est devenus des petits savants. Et nous étions chargés maintenant d'expliquer aux enfants qui n'ont pas été à l'école et à nos parents. Mais vainement, à la limite, on nous prenait comme des vulgaires menteurs, sinon même des fous.
C'est l'accomplissement suprême d'un scout pour l'ensemble de l'humanité, estime le docteur Abel Sobé, chef scout et ancien président de l'association des scouts du Burkina Faso.
En 69, j'avais 2 ans. Je me rappelle vaguement de cet événement. Il y avait une sorte d'ambiance dans la ville, et le nom Apollo est resté dans ma mémoire comme ça depuis mon enfance. Ça a été présenté comme un événement extraordinaire, quelque chose totalement improbable. Et deuxièmement, en tant que scout, j'ai pensé à Neil Armstrong, qu'on a toujours connu comme étant un scout, bien connu, qu'on s'élève dans le scoutisme. Enfin, je me sens très fier que quelqu'un qui a été dans le mouvement, qui m'a beaucoup formé, a été de cette mission.
Les jeunes, eux, en gardent un vague souvenir quand ils en savent quelque chose.
À l'époque, c'est un événement. Ça, moi, c'est sûr.
Vous connaissez Neil Armstrong?
Bien sûr, puisque j'ai fait les sciences physiques, mais je ne connais pas son histoire.
On a entendu dire qu'il est parti sur la Lune, c'est de l'espoir. Son nom est resté Neil Armstrong. Bon, après aussi, on a entendu dire qu'il n'est pas allé. Bon, on peut comprendre qu'avec ces gens-là, même si la Terre choque, c'est sûr qu'on aurait une autre planète pour accueillir le monde.
Cet événement a durablement modifié les rapports de force entre les puissances de l'époque, estimait l'historien Dr Pierre Claverienne.
Dans l'immédiat, nous sommes en plein contexte de la guerre froide. Les Soviétiques, à travers Yuri Gagarin, avaient été les premiers à être partis dans l'espace. Yuri Gagarin est décédé en 1968. Et un an après, la mission Apollo atterrit sur la Lune. Cette mission venait renverser un rapport de force en faveur des États-Unis d'Amérique. Dans le moyen terme, l'enjeu spatial a été un facteur de chantage ou de stratégie politique, et notamment lorsque le président Ronald Reagan, et peut-être même son successeur, ont lancé l'idée de la guerre des étoiles. Inspiré de cette prouesse scientifique et technologique qui a consisté donc à marcher sur la Lune. Dans le long terme, l'espace est devenu véritablement un enjeu. Parce que les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, la Chine et plus récemment la France sont en train de se doter de commandements militaires et spatiaux. Il y aura des armées de l'espace.
Beaucoup d'émotions pour un exploit d'époque posé par Buzz Aldrin, Michael Collins et le plus célèbre d'entre eux, Neil Armstrong, dont la phrase « Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité » restera pour toujours à la postérité. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends seront courtes, le samedi et le dimanche à 20h PM. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, j'ai pour la télécharge RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester coaché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.